Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Eric Guillion. Bonjour.
Bonjour.
Eric, tu es ici pour nous parler donc de cette intervention que tu as opérée pendant les rencontres de l'écologie 2025 avec un petit spectacle intitulé « Quand je serai grand », un spectacle sur le travail et la réussite, et pour évoquer aussi les modes de vie un peu fous et des chemins de traverse pour en sortir. C'est une histoire de vie, comme c'est cité sur le document, entre contes initiatiques et solo humoristiques. Un spectacle mis en scène par Ghislain Papin et écrit par Caroline Faisan et toi-même, donc. Et pour toi, quelle était cette nécessité de proposer ce spectacle dans ce cadre ?
Tout a commencé parce que j'étais en reconversion. J'avais envie de... Comment j'en suis venu à écrire ce spectacle ? Ça a commencé quand j'étais petit. Mes grands-parents, enfin mon grand-père là, tu mentionnais mon nom Guillion, c'est le nom de mon grand-père il est migrant, il est arrivé d'Italie quand il avait 14 ans pendant la guerre. Et donc il a eu des enfants. On lui a fait croire que voilà, il fallait réussir dans la vie pour laisser ses enfants, pour qu'ils aient une meilleure situation, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas de sous, etc. Donc mon père, ma mère, qui ont dû aller travailler jeunes, etc. Et moi, qui suis arrivé à la génération d'après, on m'a dit faut réussir dans la vie, il faut avoir des bonnes notes à l'école pour être à l'abri, pour ne pas faire comme le grand-père qui se faisait exploiter dans les vignes. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis arrivé là, les écoles, j'avais des bonnes notes à l'école. Je me suis retrouvé dans un travail qui avait ni queue ni tête. Enfin, je me suis retrouvé à faire des packagings de soupe en briques, donc pour une multinationale. Je me suis retrouvé à travailler. J'ai passé 3 mois chez Coca-Cola. J'ai fait ce qu'on m'avait dit, quoi. Moi, je me suis dit, c'est bon, je serai à l'abri, je fais et je me suis retrouvé là en me disant, mais c'est quoi ce monde de fou, quoi. Enfin, j'ai découvert tout ça. Et donc, j'ai essayé de changer de métier une fois, deux fois, et puis j'ai fini par reprendre des études en thèse. Puis j'ai découvert qu'on pouvait vivre autrement à la campagne. En venant ici, j'ai essayé des reconversions. J'ai voulu être. Je suis arrivé ici, je voulais me lancer dans l'agriculture, dans la cuisine, mais physiquement, je n'y arrivais pas. Et à force d'un pas en reconversion, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter aux gens, quoi. Je me suis dit, je vais raconter un peu ce parcours-là pour un peu sensibiliser aux aberrations qu'on m'a fait croire quand j'étais petit, quoi. J'ai l'impression qu'on m'avait menti un peu pendant. Donc c'est pour raconter un peu tout ça, quoi, inspiré de gens que j'ai vus, de mon parcours.
Tu parles donc de cette remise en question qui s'est produite à un moment donné de ton existence, notamment avec ces activités professionnelles. Qu'est-ce qui a déclenché vraiment en toi ce revirement ?
En gros, ça a commencé dès les études, quoi. Je suis arrivé un peu par hasard parce que dans une école de commerce. Parce qu'en gros, j'avais des bonnes notes en maths, en physique. Moi, je voulais plutôt faire de la philosophie ou faire du cinéma. Mais on m'a dit, fais une prépa école de commerce. Au moins, t'auras un peu de philo, un peu de maths. Et puis, il y a plein de métiers prometteurs qui embauchent à la sortie. Et je suis arrivé en école de commerce en me disant, en ayant un peu du mal à voir ce que j'allais faire, quoi, de ma vie. Donc, j'ai essayé un peu le parcours classique, voilà. Et dès que j'ai commencé à travailler, je me sentais pas bien, quoi. J'avais des sensations d'angoisse. Le soir, j'avais l'impression qu'on n'était jamais assez à la hauteur, il fallait toujours faire mieux et tout. Et je me suis pas senti bien dès le début. Mais à l'époque, je croyais que c'était moi le problème, en fait. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas adapté au monde du travail, qu'il fallait que je m'adapte, que je prenne rien de plus sur moi, que je sois plus fort, que je sois ci, que je sois là. Et donc j'ai changé de métier, etc., de fil en aiguille. Et quand j'ai repris les études, j'ai redémarré une thèse en sociologie, justement sur les alternatives. Et là, j'avais quasiment 35 ans. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas moi le problème, c'était le monde du travail, quoi, l'organisation du travail dominante, qui était violente, sous couvert d'un masque de... Enfin, je vais dire que toutes ces multinationales, les gens sont en costume, il y a en apparence, ça monte très policé, quoi. Et derrière, des formes de violence assez sournoises, et de voir que c'était pas moi le problème. Et ça a commencé un peu comme ça, quoi. Et après, tout s'est enchaîné, quoi.
Cette prise de conscience, s'est-elle opérée personnellement, ou alors est-ce que tu as pu aussi voir autour de toi des personnes qui vivaient un peu ces mêmes conditions?
Qui changeait aussi en même temps?
Le dialogue opérant entre collègues, par exemple, ou comment c'est instauré, cette réflexion?
Ça a commencé par dans le labo de recherche en sociaux, là. Quand je suis arrivé dans le labo, j'ai rencontré des gens qui faisaient des études sur des formes de vie alternatives, entre guillemets, ou des gens, par exemple, quand je suis arrivé, il y a une fille qui faisait une thèse sur Longomaille. Et là, quand elle parlait du rapport au travail, elle parlait par exemple, pour repeindre un mur. Ils étaient, par exemple, 4, 5 pour repeindre un mur. Ça pouvait parfois prendre longtemps. Enfin, c'était pas du tout dans la performance, mais au final, il y avait quand même eu un intérêt porté à la convivialité, et au fait que le besoin à la fin, qui était d'avoir un mur peint, c'était fait. Donc, des choses comme ça. Après, j'y avais aussi d'autres personnes qui étudiaient des mouvements sociaux, etc. Et je découvrais tout un univers de choses. Moi, on m'avait juste dit travailler à l'école, à des bonnes notes. Et j'étais un peu comme si dans une bulle un peu de propagande là, pendant 35 ans, quoi. Et donc, plein de petites choses comme ça qui ont commencé à éveiller ma curiosité sur « Ah ben tiens, il y a d'autres choses qui sont possibles que le modèle travail-performance, sois un bon élève et fais ce que ton chef te dit, entre guillemets, et augmente les ventes. » Et donc, petit à petit, il y a eu des choses comme ça, et plein de, un peu sur le bien fondé de l'école, de plein de lectures là-dessus, sur les choix alimentaires, sur les modes de, sur la démocratie, plein de choses qui étaient pour moi des évidences pendant 35 ans et qui ont commencé à être un peu. Et puis après, des rencontres de gens, à force, ça a stimulé d'autres rencontres, etc. Et ça s'est fait comme ça, mais plutôt en dehors du cadre institutionnel, c'était des rencontres en dehors, quoi, plutôt. Sur les terrains de recherche, etc.
Donc, tu t'es remis aux études, ensuite, pour pouvoir rebondir, en quelque sorte. Et il y a eu cette expérience, c'est aussi ce retour vers le théâtre, l'improvisation, le clown, le conte. Ce sont des choses que tu avais déjà pratiquées auparavant, de cette carrière professionnelle, entre guillemets.
En fait, quand j'ai commencé le théâtre, j'étais en quatrième et j'ai vraiment adoré ça. Enfin, j'avais vraiment aimé ça. Et donc, c'est un souvenir que j'avais gardé. Après, j'en faisais un peu pendant les études. J'étais au club théâtre du lycée, des choses comme ça. Après, j'avais arrêté pendant les études, après le bac. Et sur la fin des études, avant de commencer à travailler, j'avais repris encore des cours un peu comme ça. Et à un moment donné, dès que j'ai commencé à travailler, je me sentais pas bien. Je me disais que ça avait ni queue ni tête. J'avais envisagé de peut-être refaire une école de formation d'acteur. J'avais rencontré des gens qui avaient déjà fait ce changement. Mais quand je m'étais pointé dans soit des auditions pour entrer dans des écoles, c'était ultra cher pour avoir une chance sur 30 de gagner sa vie en intermittent à la sortie. Enfin, c'est ce que m'avait dit un gars. Je sais pas si c'est l'Eurostat, mais et un univers ultra compétitif où tout le monde se compare, se regarde. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Alors peut-être que donc ça m'avait un peu refroidi. Après, j'ai arrêté. J'ai plus fait de théâtre parce que voilà. Et en arrivant à Die, j'ai repris le théâtre et. Et après, j'ai suivi un peu le parcours classique des gens. J'ai voulu être agriculteur. Ensuite, j'avais voulu mettre à la cuisine. J'avais envisagé d'autres projets de reconversion. Et j'étais arrivé un peu dans une impasse. Je sentais que je galérais un peu. Et je m'étais dit d'essayer En fait, j'avais envie de m'adresser aux gens qui sont encore dans des parcours classiques, qui travaillent 60 heures par semaine, qui sont stressés pour des jobs qui sont parfois... Ils se demandent parfois à quoi ils servent. Et j'avais envie de s'adresser à ces gens-là, pour témoigner un peu, de dire que on peut faire autre chose, et de reprendre un peu ce que j'avais vu dans la thèse, dans le parcours, pour essayer de sensibiliser à tout ça. J'avais envisagé de faire de la prévention burn-out dans les entreprises. Je me suis dit que ce serait peut-être un bon moyen de rentrer... ayant maintenant aussi tout un peu... cette vision sur voir l'entreprise un peu comme un quand même eu quand même de violence assez systémique pour de nombreuses entreprises. Après. Et donc je me suis dit, je vais appeler, j'étais accompagné par Pôle emploi, j'appelle une amie qui travaille dans les RH, une amie de l'époque, et je lui explique ma vision, de dire voilà, je peux peut-être sensibiliser au stress en expliquant aux gens que ben voilà, ils sont dans des lieux de violence systémique, dans l'entreprise, dans les multinationales du CAC 40 ou autre, voilà. Et puis elle m'a dit, oui, mais en fait, ça serait peut-être pertinent pour essayer de... Si jamais on a des plans de départ volontaires qu'on veut inciter des gens à partir, ce serait pertinent de t'embaucher pour aider les gens à partir. Et là, je me suis dit, ben en fait, les gens, peut-être que la solution, c'est qu'ils partent, mais je n'ai pas envie d'être instrumentalisé pour ça. Et donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire ? Je vais écrire un spectacle. Au moins, je peux dire ce que j'ai vraiment envie de dire, sans me censurer. Et je ne vais pas avoir à me vendre auprès de RH. Je pourrais vraiment dire ce que j'ai envie de dire à ces gens-là. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ben, je vais écrire une histoire. Et aussi pareil, pour répondre aussi aux questions de... Des fois, des gens me demandent, mais pourquoi t'as fait ça ? Enfin, qu'est-ce que tu cherches, quoi ? Enfin, et voilà, pour que les gens puissent comprendre un peu, enfin, voilà, comment on en vient à essayer autre chose, quoi.
Cette notion d'urgence, et peut-être ouais. aussi de ne pas pouvoir vraiment avoir le recul aussi de ce que tu accomplis dans ces activités, ça t'a amené à une certaine confusion, et peut-être aussi d'en sortir
En fait, ouais, quand en étant dans le milieu professionnel, genre, on n'a même pas le temps d'avoir du recul sur ce qu'on fait ou si on commence à prendre du recul un peu sur l'absurdité de ce qu'on peut faire, ça a plus tendance à mener, j'allais dire, soit ça aide à, on en prend conscience et ça aide à tenir en fait, soit ça peut amener une sorte de schizophrénie parfois ou. Et après, pareil, c'est pour. Mais on n'a pas trop le temps, en fait, de vraiment se poser les questions, d'entrer dans le fond des choses. C'est ce que j'ai fait un peu avec la thèse. Et même pendant la thèse, j'ai pu sortir de ça pour essayer de déconstruire plein de croyances que j'avais eues depuis tout petit sur le monde du travail, sur la réussite, sur même sur le sens de la vie entre guillemets. Et après, même sur la fin de la thèse, je re-rentrais en mode urgence parce qu'il fallait publier dans des revues académiques, il fallait avoir un travail, il fallait rentrer dans les cases. Et je remettais dans ce mode-là. Et en l'occurrence, j'ai pas eu les compétences pour arriver à la finir, la thèse. J'ai arrêté quelques mois dans la soutenance parce que j'avais plus l'énergie. Plein de raisons. J'étais pas aussi compétent que les autres. J'étais moins valuable sur le marché du travail de la recherche académique. Quoi. Et pour différentes raisons, j'ai arrêté. Et en venant à 10, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir... j'ai fait beaucoup de bénévolat dans différentes associations et de se dire que ce sentiment d'urgence que j'avais, quand on le fait dans un contexte bénévole où on n'a pas la pression de l'employé, mais je me suis aperçu qu'en fait ce système de la pression intérieure, il était tellement intériorisé et tellement fort par le système classique, dominant, enfin majoritaire, que même je me l'infligeais à moi-même dans des contextes totalement bénévoles ou avec des enjeux qui sont peut-être des enjeux plus grands, parce qu'il y a vraiment... mais en même temps, oui. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'en fait, ça, c'est pas si facile de se déprendre de ce modèle d'urgence, performance, qu'on a tendance à à se l'infliger soi-même.
Alors, c'est proposé sous une forme de conte, c'est quand même une histoire autobiographique, en quelque sorte, où au moins tu t'es inspiré de ce que tu as vécu pour rédiger, avec Caroline Faisant, cette histoire.
En fait, c'est inspiré de faits réels. Donc dedans, il y a des choses qui sont... des personnages, par exemple, à un moment donné, il y a un PDG gourou dans l'histoire. Et ce PDG gourou, il a été inspiré par plusieurs discours que j'ai vus, un peu de greenwashing ou de vernis éthique que se donnent les entreprises, de bonne conscience, etc. Ça a été inspiré par différents... donc c'est une fiction, mais qui est inspirée de différents discours que j'ai écoutés. Même des passages dans l'histoire, c'est soit inspiré de choses que j'ai vécues, soit des choses que j'ai vues autour de moi.
Quel est le message porté dans cette proposition « Quand je serai grand »
Souvent, quand j'écoute des enfants qui disent « Moi, quand je serai grand, je voudrais être astronaute, pompier, danseur », souvent, quand j'entends cette phrase-là, j'ai l'impression de voir des petites étoiles qui brillent dans les yeux des gens. Et quand je vois des gens qui aujourd'hui travaillent dans des entreprises et qui me disent moi je suis European Brand Manager Assistant ou je suis VP comme ça, je vois plus la petite étoile au fond des yeux et entre guillemets et puis après et puis des gens qui parfois deviennent même un peu enfin perdent un peu le bah voilà cette petite étincelle quoi et dire que voilà que c'est et souvent c'est voilà on veut des choix rationnels des compromis pour se protéger etc donc il y a plein de bonnes raisons mais au final, c'est d'essayer de... L'histoire, c'est pour ça que je dis que c'est un conte. C'est un peu l'histoire d'un personnage qui essaie d'arriver à joindre les deux bouts pour vivre et aussi à retrouver un peu les yeux qui brillent.
Il y avait, lors de cette représentation opérée pendant les rencontres, est-ce qu'il y a eu un échange avec le public à la suite ?
Oui, à la fin, il y a eu un petit temps de retour. Il y a 4-5 personnes qui ont pu soit poser une question ou partager un ressenti. C'était la première fois que je le faisais, d'ailleurs, après l'avoir joué, de faire ça.
C'était la première représentation ?
C'était la neuvième.
La neuvième. Et auparavant, est-ce que tu as pu exercer sur d'autres lieux tels que les rencontres ? Ou alors ce sont des spectacles que tu joues dans des lieux plutôt intimes, en quelque sorte ?
En fait, ce qui est assez marrant, c'est quand j'ai commencé à écrire cette histoire il y a 2 ans, j'avais envie juste de la partager avec des gens autour de moi qui pour entre guillemets qui comprennent un peu mieux ou si jamais ils se posent des questions et qui sentent qu'ils sont pas bien, qui puissent se dire ok, je peux avoir peut-être quelques idées de comment faire autre chose. Et puis j'ai joué une première fois, puis j'ai eu des bons retours, des gens qui sont venus me voir à la fin, qui m'ont dit que c'était super bien. Et comme c'est une histoire qui me tient à cœur, je me suis dit, je vais la rejouer une deuxième fois. Et puis j'ai eu des mêmes retours de gens qui ont trouvé ça bien, j'ai rejoué une troisième fois, il y a des personnes qui riaient, il y a une personne qui pleurait. Donc je me suis dit, je vais continuer comme ça. Et chaque fois, je l'ai fait une fois dans un festival, dans 2 festivals d'écologie à Lyon. Je l'ai fait une fois chez l'Habitant Adi ou en partenariat avec la Corderie. Je l'avais joué à Habitaire. Je l'ai fait à Cré, à l'Usine Vivante. Là, j'ai joué dans un café, dans un tiers-lieu sur la transition à Toulouse. J'ai pris dans un bar à Paris aussi. Je découvre en fait qu'est-ce que c'est de trouver des endroits pour jouer un spectacle, hein, petit à petit.
C'est quand même un retour de l'image de l'entreprise que tu proposes aussi par ton expérience. Est-ce que tu souhaiterais peut-être aussi aller vers ces entreprises pour peut-être aussi relayer cette prise de conscience ?
Oui, j'aimerais bien. Après, c'est... quand je l'ai joué à Paris, j'ai des gens, justement, des anciens collègues de travail qui sont venus. Donc, de voir leur retour enthousiasmant, je me dis que ça pourrait intéresser des personnes. Ou là, j'étais en contact avec une association qui fait des accompagnements à la reconversion sur Lyon. Je voulais essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose avec eux. Ou dans l'enseignement supérieur aussi, je voulais peut-être essayer d'intervenir au lycée, enseignement supérieur, sur des gens qui commencent à se poser des questions, ça pourrait être propice à des échanges à la fin aussi. Parce que j'ai eu plusieurs fois deux, trois personnes qui sont venues avec des adolescents aussi pour stimuler le questionnement sur les choix d'orientation, les choix de vie future, etc. Donc je réfléchis à tout ça. C'est en cours.
Et puis, quand je serai grand, tu disais vouloir faire de la mise en scène ou monter sur la scène. Finalement, tu t'es fait une école de commerce. Qu'est-ce qui a fait en sorte cette cassure entre le rêve et une nécessité, peut-être ?
C'est pour revenir, c'est à l'histoire familiale, enfin, genre les grands-parents qui venaient migrants d'Italie ou au milieu populaire, ouvrier, qui n'avaient pas d'argent. Ils galéraient. Alors, au-delà des galères de l'argent, il y a aussi les galères, l'alcool, toutes les galères qu'il peut y avoir avec ça. Résultat, j'ai eu mes deux parents qui, pris entre toutes ces galères, qui avaient envie d'un peu plus de confort, soit psychologique, matériel, etc. Et qui avaient des moyens de faire les études, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ont dû aller travailler jeunes, donc à 18 ans, il a fallu aller travailler, même plus tôt. Et donc, eux, ils aspiraient à ce que j'ai un frère aussi, que leurs enfants ne reproduisent pas la même chose, en fait, et soient à l'abri, en fait, de la nécessité, du besoin matériel, entre guillemets, et qu'ils puissent avoir la chance aussi de s'ouvrir un peu au monde par les études, entre guillemets. Donc, dès tout petit, des retours de même à la maternelle, genre qui disait que j'étais le bon élève, même ultra docile, et c'est même un peu trop, je l'ai déconstruit après ça, de me rendre compte à quel point on pouvait devenir docile dans le système scolaire. Et donc voilà, je suis arrivé, j'ai entre choix de venir faire de la philo ou de venir intermittent réaliser des films, avec le risque de reproduire la précarité. J'avais pas de réseau, on m'a dit qu'il fallait avoir du réseau, des milieux très concurrentiels, etc. Alors j'avais des bonnes notes et je pouvais avoir une voie royale avec un métier payé correctement. On me disait qu'il y avait des carrières épanouissantes, plein de défis à relever dans tous ces métiers-là que je connaissais pas. Et donc je me suis dit, si je connais pas, il faut que j'aille le découvrir. Et donc je me suis dit, compromis rationnel. Moi, j'aurais pas de regrets, j'aurais essayé. Enfin, voilà.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5.
101.7.
FM.
Alors, ce spectacle, tu y joues 6 personnages, si je comprends bien.
Oui, c'est ça.
Et qui sont représentatifs de quoi, précisément ?
Ils sont représentatifs de personnes qui ont été un peu caricatural et qui ont été un peu des aiguillages dans la vie. Il y a des personnes aussi qui ont été très importantes, j'en parle mais je ne les joue pas. Mais par exemple, je joue un personnage, il y a le personnage de ma mère, donc, avec tout le poids de ce que je mentionnais, le poids de l'héritage familial, milieu populaire, sortir, faire des études, ascension sociale, la pression à réussir ça qu'eux-mêmes n'avaient pas réussi, parce qu'ils n'avaient pas, comme j'ai dit, ils n'avaient pas l'argent, etc. Il y a un peu le PDG gourou qui incarnait un peu le discours parfois un peu ultra bright, le discours qui fait rêver dans l'entreprise. Je me souviens des fois arriver dans une entreprise où les discours c'était on est une famille. Enfin, il y a vraiment le discours de la famille. Puis après, il y a des formes de violence qui vont se cacher derrière, assez sournoises, derrière cette apparence. Donc il y a un PDG gourou que j'avais envie de sensibiliser un peu à ça et aussi aux aberrations de la course technologique, de toujours plus de smartphones, de progrès, de numérique, etc. Et de sensibiliser un peu aux aberrations de tout ça avec un personnage un peu décalé, un peu pédagogique gourou. Après, il y a une conseillère d'orientation. Il y a aussi une conseillère Travail pour tous qui est chargée de l'insérer, ce personnage un peu inadapté, qu'il est un peu inadapté et qui... Il faut bien insérer quelque part dans le milieu du travail.
Et voilà. Est-ce que, là ça me vient à l'esprit cette idée, c'est tu as pris le train en marche à grande vitesse et peut-être perdre pied justement. Est-ce que c'est une sensation qui emporte et qui coupe un peu de l'humanité en quelque sorte?
Tu parles du train en marche
De l'entreprise, de ces entreprises qui sollicitent, qui tutoient même, avec cette bienveillance, entre guillemets, familiale. Est-ce que, pour toi, c'est peut-être aussi un mouvement qui t'a emmené à perdre pied avec la réalité?
Au début, moi, je pensais que j'étais juste inadapté parce que... des fois, je trouvais que ce qu'on me demandait, ça n'avait pas de sens, quoi. Je ne voyais pas l'intérêt. Ou parfois, sur des codes sociaux, par exemple, moi, j'arrivais venant de milieux plutôt populaires. Je me retrouvais avec d'autres milieux sociaux. Et genre, sur la manière de m'habiller, mon costume, il n'était pas aussi bien taillé. Donc, une pression à rentrer dans un moule, à la fois esthétiquement, mais parfois même sur le langage. Des fois, des manières de parler. Genre, je sentais parfois une pression, plus ou moins, avec certes, selon les entreprises, etc. Après aussi, et aussi une grosse pression à la... derrière ce couvert d'humanisme, etc., auquel je suis tombé dans le panneau. Je suis tombé dans le panneau, quoi. Je chantais très vite. Il y avait des plans sociaux, la première multinationale. Il y avait souvent des plans sociaux en parallèle dans les 3 premières boîtes où je suis intervenu, soit en prestataire, voilà. Et je sentais bien compte qu'il y avait une forme de déshumanisation, et puis même des personnes qui sont virées du jour au lendemain, des personnes très bien établies dans la hiérarchie. Alors après, certains ont plus ou moins les moyens de rebondir, mais et puis on nous demande juste du chiffre, des décisions qui tombent sans qu'on sache d'où, et puis une cassure du lien social. Je me rendais pas compte à l'époque, mais parce que j'étais socialisé avec ça, on m'a dit faut réussir, c'est un peu le discours de Enfin, il faut être indépendant, mais au final, un discours très individualiste. Et dans l'entreprise, je me suis retrouvé encore plus seul parce qu'il y a des équipes, mais dès qu'il y en a un qui a une carrière, qui a une promotion, il y a des personnes qui ont des choses pas jojo qui leur arrivent. Mais si on essaie, par exemple, de se mobiliser un peu, on se fait menacer. Donc ça veut dire qu'à tout moment, si on veut garder l'intégrité, il faut être prêt à perdre son poste. Enfin, sinon, c'est toujours des compromis, etc. Faut faire du chiffre. En final, c'est faut faire du chiffre. Il faut que ça. Enfin, c'est la vérité ultime, quoi. Enfin, ça revient. Il y a toujours ça derrière, quoi.
Alors, comment s'est opéré avec Caroline faisant l'écriture de ce spectacle ?
Ça a commencé au début après la thèse que j'ai pas fini. J'avais l'impression d'avoir découvert un peu. Des choses qui comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'être dans une bulle, comme un peu une forme de propagande en fait par le discours ascension sociale travail. Et j'avais découvert des trucs qui m'avaient un peu ouvert les yeux, par exemple de découvrir que j'étudiais Wikipédia, que c'est multinational et le travail est fait par les millions d'articles qui sont écrits dans le monde, dans toutes les dizaines de langues, elles sont écrites uniquement par des bénévoles. Et ne serait-ce que déjà que je les observais, rencontrés dans la vraie vie, qui ils étaient, comment ils gardaient un peu leur liberté de travail, d'arriver à travailler librement, mais ils ne sont pas payés par contre. Et de voir qu'en fait, on pouvait faire une multinationale avec uniquement du bénévolat, pas de chef, une critique de la hiérarchie, etc. Après, il faudrait que je rentre dans le détail, il y a des nuances, tout n'est pas tout rose non plus, mais de me dire que ça, c'est possible, de voir qu'il y a des gens qui travaillent dans des communautés de manière autogérée, autonome, en ayant un rapport au travail plus relié à la convivialité. Je me disais qu'en fait, même si c'était des bulles, c'était plutôt de ça dont on devait s'inspirer pour aller vers un autre mode de travail. Et donc, j'ai écrit un témoignage que j'ai fait qui est un peu un témoignage de tout ça, dans des coworkings, etc. Et puis, j'avais envie de le raconter à d'autres personnes et le rendre qu'il y ait un peu plus de monde qui l'entende et qui soit un peu plus entre guillemets mis en scène en fait ce témoignage. Et après j'en suis venu comme je racontais tout à l'heure après un échec de reconversion à venir à reprendre ce témoignage et à le transformer en fiction avec des personnages qui je trouvais synthétisaient bien en fait un peu tout ce que j'avais vu avec cette forme de fiction, auto-fiction et puis de mise en scène derrière aussi donc j'ai réécrit ça et puis après Caroline m'a aidé à réécrire des passages, à reformuler certains endroits, aussi à prendre du recul et parfois à couper quand moi j'avais du mal à trancher voilà.
Gisela Papin, t'as assisté aussi à la mise en scène donc...
Oui, quand j'ai voulu partir sur ce projet-là je me renseignais autour de moi pour trouver quelqu'un qui m'accompagne parce que de me dire que je vais arriver à monter sur scène pour raconter une histoire, il y avait pas mal de freins quand même au début. Il y en a toujours moins, mais donc j'avais envie que quelqu'un m'accompagne pour avoir du recul. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Ghislain. Voilà.
Un spectacle qui dure combien de temps ?
Ça dure entre 1h et 1h10, selon les interactions, s'il y a un peu d'improvisation ou pas.
Et puis donc, accessoire, une chaise ?
Voilà, c'est ça.
Et un costume, peut-être ?
J'ai une tenue que je mets uniquement pour raconter l'histoire. Mais j'ai une tenue unique pour toute l'histoire.
C'est un spectacle qui s'adresse plutôt aux adultes ?
À la base, je l'avais imaginé plutôt pour des adultes. Des personnes... Qui se posent des questions. Puis en fait, je me suis aperçu que ça devenait un spectacle quasiment tout public par rapport au retour que j'avais. Parce que je voyais des personnes de différentes générations qui se retrouvaient dans le spectacle, que ce soit des grands-parents, des parents, des jeunes. Et puis même, j'ai eu des adolescents qui sont venus dans le spectacle. Et puis j'ai eu des retours de leurs parents et d'eux. Selon lesquels ça les aidait à se projeter sur des questionnements qu'ils ont à l'adolescence, au moment de l'orientation. Et même des enfants de 8-9 ans qui viennent et parfois passent un bon moment. Je les vois, ils rigolent, ils sont hyper, hyper posés, ils passent un bon moment. Donc moi, je mets à partir de 10 ans parce que, pour que les gens comprennent tout, mais il y a même des enfants, des fois, qui viennent. S'ils arrivent à rester seuls sur une chaise, en fait, ça passe bien, quoi.
Tu parlais donc de cet aspect du bénévolat qui propose peut-être aussi d'amener des nouveautés, de prendre conscience, de faire prendre conscience aussi d'une autre manière de voir le monde, autrement que par l'économie et l'urgence tout le temps. Est-ce que pour toi, participer aux rencontres de l'écologie aussi, c'est un écho, une résonance par rapport à ces envies que tu as eues?
C'est ce qui était marrant au début, c'est quand je regardais le modèle économique de Wikipédia, de se dire que en fait Wikipédia, il y a en gros un ratio. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais pour donner une idée, un salarié pour 500 ou 1000 bénévoles, et de voir aux rencontres de l'écologie de retrouver un peu le même ratio de un salarié pour 50 bénévoles. Et de voir qu'il y avait un festival de qualité que des gens adoraient. Moi-même, je l'ai trouvé génial, ce festival. Et de voir qu'en fait, ça reproduisait un peu le modèle que j'avais vu dans le monde numérique à l'échelle. Je le retrouvais un peu à cette échelle-là, des gens qui faisaient... c'était assez organique. Chacun se gère un peu sur les tâches qu'il a envie de faire. Et puis au final, ça marche bien. Et je l'ai vu, ce modèle-là d'un salarié. Je l'ai vu dans plein d'autres domaines, soit dans l'agriculture, dans le modèle de la santé. Et de voir que c'est un modèle, en fait, dans lequel les gens peuvent vraiment choisir les tâches qui leur importent, qui les importent, à partir du moment où les gens arrivent à dire, à formuler ce qu'ils aiment, ce qu'ils arrivent à faire, quelles sont leurs limites. Et de voir que tout s'agence bien, en fait. C'était assez merveilleux. Et de voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément un chef et que ça produit, ça peut produire vraiment du service, de la formation, même parfois de la nourriture, des repas, des soins. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, un modèle qui est beaucoup plus épanouissant, mais qui n'est pas du tout valorisé et soutenu dans le monde actuel. Bon, il y a aussi le travail au foyer, mais...
Tu parlais de Wikipédia, donc comme référence. Est-ce que tu as eu ces échos concernant un hebdomadaire français qui décrit justement ce système de Wikipédia? Et je crois même qu'il y a une attaque du président américain actuel contre cette structure associative.
Oui, il y a déjà eu des attaques d'un autre hebdomadaire à l'époque où je faisais la thèse. Là, j'ai un peu moins suivi les nouveaux débats, mais
ça concernait un hebdomadaire qui se référait à un article qui lui était dédié et dont il ne se retrouvait pas dans le propos. Et donc, il y a eu des tentatives et voire même des menaces auprès du rédacteur de cet article.
Oui, mais en fait, c'est bien représentatif du fait que Wikipédia, c'est... du principe qu'ils reproduisent ce qu'il y a dans la société et chacun est libre d'y amener les contenus qu'il veut. Après, il y a des règles de filtrage, etc., qu'on peut aller renégocier en interne, etc.
Oui, c'est ce qu'ils appellent du consensus.
De consensus, etc. Et en fait, Wikipédia, à la fois... comme tout le monde est... Ah oui, ce qu'il faut pas oublier, c'est que n'importe qui peut modifier un article de Wikipédia sur n'importe quel sujet, à part des sujets qui sont trop polémiques, et parfois c'est juste ça devient ingérable, donc temporairement, c'est pu avoir quelques freins qui sont mis. Mais n'importe qui peut modifier un article de Wikipédia, même sans créer un compte. Et donc ça veut dire que potentiellement, tous les contenus du monde actuel peuvent venir émerger et prendre leur place. Donc il peut y avoir des contenus très alternatifs, ésotériques, etc. Donc c'est vraiment un lieu où tout peut remonter. Par contre, ils ont une règle, comme c'est l'encyclopédie, c'est que tous les contenus doivent être sourcés. Donc, c'est-à-dire, quand on avance quelque chose, il faut mettre une source. Donc après, il y a plein de règles là-dessus. Ça peut être des journaux nationaux, régionaux, des articles académiques, etc. Et donc là, on voit, en fait, Wikipédia, ça crée des tensions parce qu'en fait, ça cristallise deux systèmes de pouvoir. Donc ça, justement, s'il y a cette tension-là, ça montre qu'il y a des gens qui peuvent avoir une liberté de montrer qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Et en même temps, il y a le système de dire qu'il faut avoir les sources, qui sont les sources du système de recherche actuel, qui a ses limites, qui est financé par des systèmes qui ont de l'argent, qui lui-même a ses limites. Et là, on voit qu'il y a un peu un clash de ces deux systèmes de pouvoir qui se cristallisent, en fait. Et donc, ça crée des tensions sur qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que la vérité. Et ce qui est intéressant parfois pour quand on cherche à comprendre un sujet, c'est de voir, d'aller remonter sur comment a été écrit l'article, les différentes versions de l'article, et pour prendre le recul sur quels sont les arcanes de la construction du savoir, et de s'apercevoir qu'en fait la construction du savoir, c'est un jeu de tension permanent entre différents systèmes qui s'affrontent, et Wikipédia est au croisement de tout ça. Donc c'est normal qu'il y ait des tensions et des personnes qui ne soient pas contentes, et c'est plutôt sain. Alors après, peut-être que ça va étouffer, et voilà. Mais il y a plein de gens bénévoles qui veillent à tout ça, et heureusement, je leur fais plutôt confiance.
Est-ce que ce conte que tu proposes, quand je serai grand, donc, traditionnellement, le conte se transmet de manière orale, rarement par l'écriture. Comment avez-vous pu justement articuler entre l'écriture et cette notion du conte ?
Et
est-ce que ce spectacle évolue aussi avec l'actualité ?
Par rapport au travail avec l'écriture, en fait, ça part d'une base écrite. Et on l'a vraiment travaillé après comme un conte, au sens où c'est une histoire que je raconte avec... il y a des choses improvisées à chaque fois, il y a des tournures qui changent. Chaque restitution est un peu unique, entre guillemets. Il y a vraiment... des contenus, il y a même des contenus qui changent, et c'est un conte qui est pas un conte classique au sens ça reste une histoire, ça reste un peu une fable de société, un conte assez contemporain, un peu les limites sociologiques entre guillemets, et l'évolution, j'évolue plus en termes de si je vois qu'il y a des passages, au début il y a un passage qui est peut-être un peu mal compris ou un passage qui est un peu long, pour le rendre plus accessible, mais il évolue pas en fonction de l'actualité. Par contre, j'ai bien envie d'écrire une autre histoire là. Je travaille sur écrire une autre histoire. Je sais pas encore quel sera le format, mais qui sera peut-être plus inspiré d'autres choses C'était un projet qui me trottait en tête depuis longtemps de partager ça.
Éric Guiglione, un spectacle seul en scène. Est-ce que pour la prochaine création, est-ce que tu envisagerais d'être avec d'autres personnes ?
J'aimerais bien faire soit des choses en format peut-être plus cabaret ou avoir des procédures, d'écriture et de mise en scène plus collectif. J'en ai discuté avec différentes personnes autour que j'ai rencontrées, donc peut-être essayer de faire des choses plus, de manière dans un processus plus collectif, même si à la fin ça reste seul en scène. Après, pourquoi pas, je vais où le vent me porte, entre guillemets, là-dessus.
Une ambiance musicale t'accompagne sur ce spectacle
Au début, j'avais commencé à réfléchir à des musiques. Puis après, ça a pris une orientation vraiment de conte. Et puis, j'aime bien l'idée aussi d'avoir une histoire que je peux raconter n'importe où que j'aille, quel que soit le lieu. Il y a juste besoin d'une chaise. Et puis, ça peut se faire partout, n'importe où, sans technologie. Alors après, effectivement, s'il y a du monde, avoir un micro pour amplifier. Mais j'aime bien cette idée de dire que on peut juste se balader partout et aller porter cette histoire.
Il y a un site internet, je crois, pour découvrir ce travail.
Oui.
Avec des extraits, il me semble.
Il y a des photos. J'ai pas d'extrait vidéo. Pour l'instant, on verra pour l'avenir, mais pour l'instant, j'en ai pas encore.
Est-ce que tu aurais une proposition musicale pour finir cette émission ?
Non, je pensais à une chanson que j'aime bien, mais dont j'ai oublié le titre. Une chanson qui est... c'est plus une musique, Cirque Plume, une musique du Cirque Plume que j'avais utilisée d'ailleurs pour faire un générique quand je faisais des chroniques ou des émissions à RDIWA. Cette musique que j'aimais bien, je crois qu'elle venait du spectacle Plic-Ploc, mais j'ai oublié.
Ce passage à RDIWA t'a conforté aussi dans cette aventure ?
D'ailleurs, j'y repense souvent parce que j'avais vraiment aimé faire des interviews. D'ailleurs, je me disais, il faudrait peut-être que je m'y remette à refaire des interviews à l'occasion, soit une émission ou des interviews par-ci par-là. Et souvent, je raconte dans le spectacle à un moment donné que le personnage veut faire une reconversion. Donc, il fait tous les tests de personnalité imaginables, son thème astral, etc. Et son point fort qui en ressort, c'est qu'il adore poser des questions et se poser des questions. Ce que j'aimais, poser des questions aux gens, découvrir leur parcours, leur... je trouve ça vraiment génial. Ça m'a conforté aussi dans l'idée d'écrire et de parler, en fait, et de raconter. C'était plus pour les chroniques, ça. Par contre, plus l'aspect sur les chroniques, écrire des choses, partager des... Enfin oui, ça reste au final... Oui, c'est ça que je voulais dire. Poser des questions aux gens, au final, ça, c'est... C'est-à-dire que je pars du principe que la vie de... je suis convaincu que la vie de tout le monde est fascinante. Et chacun, même si parfois en apparence les gens ont une vie monotone, à l'intérieur, il y a plein de tourments, de tourbillons, de tensions et de choses comme ça. Et raconter à la radio, à travers des interviews, l'histoire de ces gens, c'est quelque chose qui me plaît. Et raconter une histoire, là, c'était plutôt inspiré de ce goût pour les histoires, en fait.
Éric Glidion, je te remercie beaucoup d'être venu sur RDWA pour nous parler donc de ce spectacle « Quand je serai grand ». N'hésitez pas à joindre par le site internet, l'adresse.
C'est ericghi.fr.
Voilà, et je te souhaite une bonne soirée.
Ben merci.
Au revoir.
Merci. Thank you.